Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Fred Hermel, Paulo Breitner, Yoann Crochet, Julien Laurence, nos drôles de dames toujours avec nous, parce que c'est lundi aujourd'hui, lundi c'est drôles de dames. En Allemagne, ce week-end, Hoffenheim n'a pas fait mieux que 0-0 à Augsbourg. L'équipe est 15e de Bundesliga, aux portes des barrages, et son entraîneur Pellegrino Matarazzo a été viré aujourd'hui même, ce lundi. Et alors Paulo, tu avais envie de lancer un débat avec nos autres drôles de dames qui concernent justement les changements d'entraîneur, dis-nous.
Ouais, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des changements d'entraîneur ou me dérange pas plus que ça, mais ce qui m'intéresse, c'est les raisons et le pourquoi du comment, et si on les vire au bon moment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Par exemple, le cas Matarazzo, on savait que ça faisait plusieurs semaines qu'il était en difficulté, il avait des difficultés dans le résultat. Moi, j'étais pas tellement content de l'évolution de son jeu. C'est un ancien d'Offenheim parce qu'il avait entraîné les jeunes notamment. Il avait été coach adjoint sous Nagelsmann. Donc, le fait qu'il revienne en 2023 à Offenheim au club qu'il connaissait et qui développe le club à sa façon, il a quand même qualifié l'année dernière le club pour l'Europa League, et on le vire comme ça, et en fait ce qui est toujours intéressant, c'est quelques jours après, on apprend toujours pourquoi est-ce qu'un coach est viré. C'est-à-dire que moi je suis de l'extérieur, il se fait que je connais quelques coachs qui ont été virés en Allemagne, et j'avais des informations de l'intérieur, et souvent c'est très différent de ce qu'on entend, et en fait moi je m'intéresse toujours, sans émotion aucune, à savoir, est-ce que c'est bien d'avoir viré un coach à ce moment-là, ou est-ce qu'il aurait fallu le faire plus tôt ou plus tard, etc. Dans le cas de Matarazzo, bah, tu sens que c'était possible parce que le jeu d'Offenheim, on l'a vu aussi contre Lyon en Europa League, n'évoluait pas, mais on apprend qu'en fait, il n'était pas le premier choix lorsqu'il est arrivé en 2023 pour sauver le club justement de la relégation à l'époque, tout simplement parce que Dietmar Hopp, le milliardaire, avait un autre choix qu'il préférait. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses cet été à Offenheim. Le directeur sportif qui avait fait venir Matarazzo a été viré. Et on rentre encore une fois dans un débat où les coachs sont-ils juste des fusibles ou sont-ils des gens qui sont importants dans les clubs de football? Et je fais référence à un documentaire, j'ai pas réussi à aller au bout, mais il y avait un documentaire que j'ai vu, ça doit être sur Canal ou Netflix, je sais plus, où j'entendais le président Caillot qui disait que je trouvais la phrase très intelligente, qui disait que son coach, c'est en fait son directeur de production, comme lui il travaille dans la logistique, c'était un directeur de production dans une entreprise avec différentes directions. Et je trouvais ça très intéressant, parce qu'un directeur de production, en général, n'est pas le responsable de la politique à mener à moyen et à long terme, c'est plutôt le directeur sportif, voire des personnes au-dessus. Et donc le débat que j'ai avec vous, c'est que Matarazzo arrive, finalement on se rend compte que c'est pas lui le premier choix, même si c'est un ancien de la maison. On pourrait prendre le cas de Peter Zeidler qui n'avait pris qu'un seul point à Bochum, sauf qu'on oublie que le club de Bochum, comme disait Fred tout à l'heure, c'est des noms, quand je citais certains noms de seconde division allemande, ce sont des clubs, en gros, si t'as pas 50 ans, t'as jamais entendu parler de Bochum, comme t'as pas entendu parler de Nuremberg, ou ce que veut dire, et les jeunes générations allemandes entendent plus parler de Fribourg, de Mayence, etc. Et c'est un peu un club qui a une mentalité, entre guillemets, ou une culture de dinosaures. Et amener un coach comme Peter Zeidler, que je connais très bien, avec ses qualités mais aussi ses défauts, encore une fois je suis pas dans le jugement, est-ce que c'est bien ou pas d'aller, mais c'est compliqué parce que Peter, il arrive avec la théorie du jeunisme allemand, c'est-à-dire que si t'as plus de 30 ans c'est compliqué de jouer au football avec lui. Donc évidemment on se retrouve avec un club où il y a des joueurs qui ont 7 ans 8 ans d'expérience dans le même club, qui sont un peu ceux qui tiennent le vestiaire, et donc t'as presque une révolution qui débarque dans le vestiaire avec un nouveau coach qui n'est pas forcément adapté à la culture du club, encore une fois un club ancien. Le club ancien te dira, oui mais nous ça fait 4 ans qu'on est en Bundesliga, donc on n'a pas besoin de l'avis de ces nouveaux coachs pour savoir comment on fait pour se maintenir en Bundesliga. Donc c'était plus comment c'est vécu en Allemagne, enfin dans le pays européen. Est-ce qu'on vire un coach à bon escient? Est-ce qu'il y a des réflexions pour savoir si les coachs aujourd'hui sont juste des fusibles, ou comme on dit souvent, le premier fusible, et puis de toute façon il y en a, ça passe, etc. Et si vous avez fait un peu le recul de savoir si c'était bon ou pas de virer un coach. Dernier exemple, le cas Nagelsmann au Bayern. Moi, je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'était une bonne ou une mauvaise décision à l'époque. On peut faire a posteriori un retour sur ce cas, mais sur le moment. Voilà, donc c'est l'avis que j'aimerais développer avec mes collègues.
Alors, parenthèse, puisque tu as cité son nom, je vous invite à aller écouter le podcast After Allemagne avec Peter Zeidler en entretien, puisque vous l'aviez eu en interview. Et je vous fais juste un petit fact-checking avant de vous donner la main. Je suis allé regarder dans vos championnats respectifs le nombre d'entraîneurs qui ont sauté depuis le début de la saison. Toi, tu en as eu deux en Allemagne, Bochum et Hoffenheim, Polo. En Espagne, il y a juste eu Las Palmas. En Angleterre, United. En Italie, il y a Lecce et la Roma deux fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la saison dernière, au même moment de la saison, il y a moins d'entraîneurs virés, sauf en Angleterre où il n'y en avait pas du tout. Et là, il y en a un cette fois-ci. Donc, ça se joue à peu de choses près. Hein. C'est assez similaire finalement. Par rapport à la France, il n'y en a que deux, par exemple, qui ont été virés à ce moment de la saison. Je peux vous donner un cas extrême que je suis particulièrement. Au Portugal, après 11 journées, il y a déjà 8 changements d'entraîneur. Ça, c'est déjà un autre délire. C'est un peu le tiers-monde, le Brésil de l'Europe à ce niveau-là. Vous pensez quoi de la réflexion de Polo? Juju, t'en dis quoi, toi? Est-ce qu'il y a un bon moment pour virer les entraîneurs? On voit qu'en PL, c'est assez tranquille, que ce soit l'année dernière ou cette saison d'ailleurs.
Ouais, même si c'est traditionnellement en novembre, pendant la trêve internationale de novembre, que souvent ça se fait, parce que j'imagine que t'as eu déjà 10, 11 matchs, 12 matchs de jouer cette saison, et que t'as une meilleure idée de si ça marche, ça marche pas avec les entraîneurs que t'as. C'est peut-être le bon moment aussi, notamment parce que nous, on continue à jouer pendant les périodes des fêtes, de changer, parce qu'après, c'est pas, en Europe par exemple, si tu le fais pas maintenant, tu peux encore, dans le reste de l'Europe, tu peux le faire encore autour de Noël. Parce que t'as cette petite trêve que certains ont. Donc nous, novembre en général, c'est là où t'as pas mal de mouvements. Moi, ce qui me surprend dans un sens cette saison, c'est que t'as quand même cinq clubs, avec une seule victoire en 11 journées. Ouais. Une victoire en 11 journées en Premier League, c'est ridicule. Donc pour Southampton, Wolves, Crystal Palace, Ipswich, donc ça fait 4, pardon, Everton, 2 victoires. Mais que les entraîneurs soient encore en place, que ce soit Glasner, que ce soit McKenna, on parlera d'Ipswich tout à l'heure, que ce soit même Gary O'Neill à Wolves et Russell Martin à Southampton. Par le passé, je pense qu'ils auraient sauté depuis déjà longtemps. Et d'un côté, j'applaudis ça. Moi, je trouve qu'on l'avait vu, je sais que j'en avais parlé la semaine dernière, mais Iraola qui gagne aucun de ses 10 premiers matchs de championnat avec Bournemouth, qui aurait pu se faire virer, aurait peut-être dû se faire virer dans d'autres clubs. Et ben là, ils lui ont conservé la confiance. Et au final, il a su retourner les choses. Et aujourd'hui, ils sont très contents de l'avoir gardé. Donc, c'est peut-être, ça montre aussi l'évolution en Angleterre. Avant, on prenait ces décisions-là assez rapidement. Là, j'ai l'impression qu'on donne un petit peu plus de temps, qu'on a un peu plus de patience pour les entraîneurs.
Est-ce qu'il n'y a pas une raison économique aussi à ça?
Ah, bah complètement. Si. C'est ce que j'allais dire.
Voilà. Si tu le vires, tu signes le chèque, quoi.
Bah non, en Espagne, c'est clair. Il n'y a pas d'argent dans les clubs. Il y a une grave crise économique. Donc, automatiquement, on est un peu plus patient. Tu parlais de l'exemple de Las Palmas. Là, on peut dire que c'est un exemple très pertinent. Puisque Luis Carrion, qui était viré, c'était 3 points en 9 matchs. Et Diego Martinez, c'est 9 points en 4 matchs. 3 victoires, une défaite et une défaite. Au Wanda, au Metropolitano.
Ah, qui se relance. Hein.
Donc là, franchement, ça change tout, quoi. Voilà. Donc, il était clair que ça ne marchait pas avec Luis Carrion, ce début de saison en Liga.
Après, bon. En Espagne, il y a aussi une règle, qui est très intéressante et qui est parfois citée en exemple, notamment, je pense à la France, mais pas que. C'est qu'un entraîneur qui a entraîné un club de Liga ne peut plus entraîner un autre club de Liga au cours de la saison.
Exactement.
Ça, c'est intéressant.
Ça évite le turnover aussi. Ça évite aussi. Bon, après, en général, il trouvait du boulot ailleurs.
Ça réduit quand même.
Puis
les possibilités.
Mais je pense que la question économique est centrale aujourd'hui, ouais. Quoi, parce que automatiquement. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que le Barça doit encore de l'argent à un ancien entraîneur.
Bah, c'était Quique Setién, mais je crois qu'ils ont payé.
Je crois qu'ils ont réglé. Enfin,
le syndicat a mis la pression.
Il y a quelques semaines, mais je crois que tu vois ça serait parce que c'est beaucoup d'argent parce qu'en général les entraîneurs ils n'ont pas des contrats de 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as un contrat de 2-3 ans. Au bout de 3 mois, si tu au lieu de 3 mois tu dois payer 3 ans, bon c'est un gros problème pour les caisses. Donc oui, la question économique est importante. Après il faut sincèrement quand là 9 matchs comme la Spalmas, t'as pris 3 points. Ouais. 6 défaites, 3 matchs nuls, t'es obligé de virer ton entraîneur, quoi.
Johan, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a un bon moment pour virer son entraîneur, comme demande Polo? Est-ce que ça change quelque chose? Alors, il y a les cas extrêmes, genre la Spalmas où ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas de vraie règle finalement.
Non, il n'y a pas de vraie règle. Un truc, comme on a parlé de la Roma dans la première heure, il y avait le choix, c'était il y a une quinzaine de jours, même la semaine dernière, ou maintenant, pour Ivan Juric. Ils ont décidé de le faire maintenant. Les 3 matchs précédents, c'était Hellas Vérone, Union Saint-Gilloise, Bologne. Les 3 matchs qu'aura affronté le nouvel entraîneur de la Roma, c'est Napoli, ouais. C'est Tottenham,
pour te mettre en confiance, il y a mieux, ouais.
Et Atalanta. Ouais. Est-ce que c'est le bon moment? C'était le bon moment pour le
c'est
faire.
C'est vrai que ça joue aussi. On n'a pas parlé du calendrier. Avant. Ça peut jouer aussi, ouais.
Moi, je pense que ça peut jouer. Deuxième élément. Nous, en Italie, les investisseurs étrangers, même si ça se vérifie pas là sur le début de saison avec la Roma, ont remplacé des figures qui étaient dans la difficulté de contrôle émotionnel. Et donc, il y avait un rapport avec leurs entraîneurs très particulier. C'est-à-dire des propriétaires qui, donc c'était souvent des Italiens, qui aimaient leur club, qui étaient tifoso de leur club, qui avaient donc une gestion émotionnelle très particulière, qui réfléchissaient comme des supporters, et qui, parfois, après un mauvais match, ou deux mauvais matchs, ou trois mauvais matchs, ça dégageait. Mmh. Là, ils ont quand même un peu plus de réflexion, de contrôle sur leurs émotions pour voir.
Parce qu'ils sont moins fans des clubs, en fait.
Est-ce que c'est vraiment catastrophique? Est-ce qu'il n'y a pas des axes d'amélioration? Comment réagit le groupe vis-à-vis de cet entraîneur-là? Par exemple, un Fonseca, avec Berlusconi, je ne suis pas sûr qu'il sera encore là aujourd'hui après le début de saison qu'a connu Milan. Par exemple, pour l'affaire Léa Otéo, pour d'autres choses, je ne suis pas sûr que Fonseca sera encore là aujourd'hui. Et le fait est qu'avec Redbird, enfin, ce n'est même pas trop le propriétaire, c'est plus les dirigeants, là, pour le coup, c'est Zlatan, Moncada, Forlani. Ils se sont dit, OK, on a encore du temps et on croit en Fonseca, on croit en sa méthodologie de travail. On voit que les joueurs sont très réceptifs et donc on va lui donner du temps. Je pense qu'il y a eu une vraie différence en Italie à partir du moment où on a enlevé ce qu'on appelait les mangia allenatori, les mange-entraîneurs, qui étaient les Cellino, que Julien a connu en Angleterre, qui étaient les De Zamparini, qui est décédé.
Non, Leeds,
il était à Leeds.
Ouais.
Et le troisième, c'était Preziosi, qui était au Genoa. Ces mecs-là, ils faisaient deux entraîneurs par an en moyenne. Et maintenant, avec un peu plus de raisonnement, un peu plus de vision comme une entreprise, finalement, et moins sur la gestion émotionnelle, on a un changement clair en Italie.
Il y a une chose aussi que je voulais ajouter, c'est la... Pardon, excuse-moi Paulo, je vais simplement une petite... C'est dans l'analyse que tu dois faire au moment de choisir si ton entraîneur va rester ou partir, c'est bien entendu, tu l'as un peu évoqué, la relation avec le groupe. Ce week-end, clairement, les joueurs du Real ont dit on veut continuer avec Ancelotti. Parce qu'ils se sont défoncés alors comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on savait très bien que s'il y avait des fêtes, Ancelotti, il avait une grosse chance de sauter. Et là, les joueurs montraient que... En espagnol, on appelle ça « affaire de la cama ». Faire le lit, c'est quand tu veux faire virer ton entraîneur. C'était totalement différent ce week-end.
Juste un autre élément que tu as évoqué aussi, Johan, et je pense qu'il peut jouer. Et là, Polo, ça concerne aussi le modèle finalement allemand, mais c'est la pression des socios, des supporters. C'est-à-dire, il y a des clubs où on sait que quand on est président, on est élu, et on doit faire plaisir à la masse populaire parce qu'on veut être réélu. Enfin, il y a aussi ça aussi qui parfois rentre en ligne de compte. Il y a des clubs où il y a une pression populaire plus importante que d'autres, non?
Oui, mais regarde, il y avait une pression, populaire, bizarrement, au Fenham, qui est très importante depuis un peu plus d'un an, justement parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de Dietmar Hopp. Le club est redevenu un système associatif comme la plupart des clubs allemands. C'est-à-dire Dietmar Hopp a fait cadeau, en gros, du club à ses membres. Et si tu veux, par contre, on voit très bien qu'il continue en loose day d'influencer sur ce qui se passe, etc. Donc et les supporters commencent à en avoir marre de ça. Et on disait, mais on ne comprend pas que... Alors, vous ne le connaissez pas forcément, Rosen, qui était l'ancien directeur sportif, c'était le manager qui a réalisé le plus de plus-value dans l'histoire du foot allemand et qui a été forcé de partir. Et donc les supporters ne comprenaient pas ça parce que Hoffenheim reste entre guillemets un petit club et on se dit se priver de ce genre de directeur sportif, c'est difficile. Et c'est pour ça que je voudrais revenir plutôt que l'entraîneur parler des directeurs sportifs qui souvent sont potes avec X ou Y, etc. Et moi, les directeurs sportifs, d'ailleurs, je vais avoir un débat, je tease, comme on dit, l'un des prochains podcasts, normalement, avec un grand entraîneur européen qui a évolué notamment en Bundesliga, et on va parler du problème qu'il avait en Bundesliga avec les directeurs sportifs qui sont, vous le savez, sur le banc en Allemagne, ce qui n'est pas le cas dans les autres championnats européens. Et ce qui peut, parce qu'en fait, ils veulent exister, les directeurs sportifs. Or, il s'est passé un truc, je vais juste donner un exemple, le Francfort, qui aujourd'hui est sur le podium et on trouve tout merveilleux avec Dino Topmöller, Marmoush et Kitiki, etc. etc. Mais Dino Topmöller, il était en danger en début de saison. Parce que Krösche, le directeur sportif, a bien vu l'année dernière que l'équipe était qualifiée pour l'Europa League, mais que le jeu produit sur le terrain n'était pas bon. Et donc, comme souvent, en deuxième année, on demande, en Bundesliga en tout cas, à ce que, un peu comme dans un projet d'entreprise, on demande à ce que sur le terrain, on, par rapport aux moyens mis à disposition de l'entraîneur, on voit une évolution dans le jeu et évidemment les résultats. Il se fait que Dino Topmöller, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de le virer. Parce qu'il a des résultats. Mais encore une fois, en début de saison, il faisait partie de ceux qui auraient pu être virés le premier.
Bah, il était sympa ce débat.
Justement, un petit truc qui se passe en Portugal aussi, c'est les petits mouchoirs blancs.
Quand on veut virer un entraîneur, ouais.
Un entraîneur, bon.
Le ça s'est passé notamment dans le Classico. Il y avait le Benfica Porto ce week-end. Benfica a gagné 4-1. Et Vitor Bruno, qui est le premier entraîneur d'André Villas-Boas, le nouveau président, il a eu droit au mouchoir blanc à la fin du match.
Et ça va encore plus vite quand les mouchoirs blancs sont dirigés vers la tribune d'honneur du président. Ouais. Là, tu peux être sûr que tant que c'est contre l'entraîneur, le mec, il hésite un peu. Mais dès que c'est contre lui, le président, bah, il vient l'entraîneur. Pour se protéger. Voilà, le fusible.
Tiens, petite musique italienne qui concerne un entraîneur aussi.
Je te lance que t'étais ardeur
Vasco Rocheux. Rossi Siamo solo noi. Bah oui, parce que ce week-end on avait un peu teasé, on a parlé de Monza tout à l'heure. Monza qui ont vraie difficulté au classement, 19e, ça se passe pas bien, ils prennent pas beaucoup de points. Pour moi, c'est un des effectifs les plus faibles. On est aussi dans une transition parce que il y a des offres de rachat. On sait que depuis le décès de Berlusconi, qui était propriétaire du club, on sait que c'est toujours resté dans le giron de la famille Berlusconi, mais il n'y a plus le même attachement maintenant, il n'y a plus la même passion pour le football. Donc, et ça pourrait être racheté par des propriétaires soit italiens, soit étrangers. On verra si on a un nouveau propriétaire américain ou pas. On partirait plutôt sur un propriétaire italien. Et l'entraîneur Alessandro Nesta affrontait son équipe de cœur ce week-end. Il affrontait la Lazio. Et il a encore perdu 1-0 sur un très beau but de Zaccagni, qui est un des joueurs les plus en forme du championnat. Et Nesta, ça commence à être très très compliqué pour lui à Monza.
Il a pas fait une carrière de fou comme entraîneur, on est d'accord. Non, en même temps, c'était un joueur incroyable. Mais...
L'année dernière, à la Reggiana, en Serie B, c'était pas mal. C'était intéressant, c'était un effectif qui était quand même pas si fort. Et là, il a récupéré, par exemple, le petit Bianco qui est à Monza maintenant. Mais c'est compliqué, tu sens qu'ils ont du mal à se créer des occasions. Encore un Armando Izzo titulaire, c'est très très dur. Et donc... notre ami Alessandro Nesta, je sais pas si on parlait des entraîneurs juste avant. Je suis pas certain que.
Passe l'hiver.
Je suis pas certain qu'à la fin de la trêve, là, on a encore Alessandro Nesta sur le banc de Monza, parce que maintenant l'échantillon est quand même très important. Et ça commence à faire beaucoup. Et surtout, attention, parce que quand t'es dans un process de vente, t'as pas intérêt à rendre le club en série B. Ouais. En tout cas, de le donner en janvier, en mars ou en avril, quand tu veux, dans une situation sportive catastrophique.